Salut mes Parisiens, je vous demande pas comment ça va aujourd'hui. Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du Paris Saint-Germain toutes les semaines. Merci de continuer à faire monter ce podcast sur les différentes plateformes, c'est dispo partout. Et on vous attend maintenant, nombreux, sur YouTube, puisque c'est la nouveauté du mois de mars. L'After Paris débarque en vidéo sur la chaîne de l'After, où vous soyez peut-être sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, ça permet de mieux nous référencer et d'être là plus fort avec vous tous. L'équipe cette semaine, il était au parc mercredi. Jimmy Brown est là comme toutes les semaines. Salut Jimmy.
Salut Thibaut, bonjour à tous. L'ampleur qu'a pris ce podcast, c'est incroyable. Je découvre les nouveaux studios.
Ouais, je découvre un peu aussi. J'ai vu Gilbert la semaine dernière.
C'est énorme.
Qui a fait le truc, là, c'est magnifique. Hein, c'est décor, Tour Eiffel, Arc de Triomphe.
C'est fabuleux. Madame, c'est beau, Paname. Hein.
C'est
beau,
hein, c'est magnifique. C'est beau.
Venez nous voir sur YouTube, ça vaut le détour. Vous verrez également Julien Taxi si vous vous connectez. Salut Julien.
Salut Thibaut.
Journaliste RMC Sport. Qui lui a pleuré seul dans son salon.
Oui, exactement, sur le canapé, petite gueule de bois, sans même boire la moindre goutte d'alcool.
Et on a invité cette semaine, ancien joueur du Paris Saint-Germain, présent à Anfield, ça va nous servir aujourd'hui, lors d'un Liverpool-Paris Saint-Germain en 97, Didier Domi est là. Salut Didier, merci beaucoup.
Bonsoir, bonsoir à vous tous.
Ça va Didier, la forme?
Ça va très bien, ça va très bien. Bon, à part ce matin, bien sûr, après tout ce qui s'est passé hier, mais un match retour, et surtout très fier de cette équipe.
Et ce serait justement peut-être le plus grand exploit de l'histoire du club pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Paris va devoir aller gagner à Anfield et par deux buts d'écart. La mission semble presque impossible, mais la prestation du match aller ce mercredi nous laisse quand même un peu d'espoir. Le PSG peut-il renverser Liverpool en Angleterre? C'est notre débat de la semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match aller? On est tous là, on parle de gueule de bois, vous me l'avez déjà dit dès le début. Ce qui veut dire qu'on a des regrets, ce qui veut dire, on va essayer d'être positif, là on enregistre au lendemain, qu'on a des raisons d'y croire quand même, Julien.
Moi je vois pas dans quelle mesure et pourquoi le Paris Saint-Germain ne pourrait pas réaliser, alors peut-être pas le même match, mais un match aussi fort, aussi intense, certes il y aura Anfield, on va en parler dans quelques instants, mais hier soir ils étaient non seulement dans la lignée de ce qu'ils nous offrent et proposent depuis plusieurs semaines. Honnêtement, franchement, pendant les 30 premières minutes, moi j'ai eu des frissons, on attendait tous le but, il y a eu le but refusé de Guevara, après l'intensité est un petit peu retombée, on est retombé sur les mêmes problèmes, entre guillemets, celui de l'efficacité, même si je trouve que c'est très différent du match face à l'Atlético, parce que Oblak n'avait pas sorti le match hier d'Alisson hier. Pour moi, il y a quand même pas mal de motifs d'espoir. Il y a aussi l'entre-deux-match dont on peut reparler aussi à bien gérer. Et ça, je fais plutôt confiance à Luis Enrique. Je trouve les déclarations hier des joueurs très positives au sortir de la défaite. Je reste, si ce n'est confiant, avec pas mal d'espoir.
Si on reste un peu sur le match, Luis Enrique a dit c'est injuste. Tout le monde est d'accord là-dessus, Didier?
Oui, bien sûr que c'est injuste. Mais pour revenir à la question... C'est même pas par rapport au match, je suis vraiment content que la tournure que le PSG prend depuis quelques mois, depuis deux ans avec Luis Enrique, avec Luis Campos, avec tous les joueurs, la qualité de recrutement, et puis surtout on a des valeurs sur le terrain, on a des valeurs en dehors, on a vraiment un état d'esprit, on est très bien en ballon, ça crée des occasions, c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de passer avec le Paris Saint-Germain. C'est marrant, on a eu énormément de stars, mais j'ai jamais eu cette impression si forte qu'on gagne la Ligue des Champions ou pas. Je pense qu'on a beaucoup plus de fondations pour la gagner maintenant. Et pour moi, c'est ça le plus important. Alors, on passe contre Liverpool ou qu'on ne passe pas, c'est juste cette évolution qu'on a depuis 18 mois qui est énormément positive. Et on ne construit pas une équipe, on est en train de reconstruire un club. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup.
Jimmy, d'accord avec tout ça?
Oui, moi je rejoins ce qu'a dit Didier dans sa première intervention, le sentiment c'est la fierté en fait hier soir. Tu sors du parc et normalement quand tu perds des matchs comme ça aussi importants en Ligue des Champions, t'as une espèce de colère qui traverse les tribunes, c'était pas du tout le cas hier. À la fin les gens étaient juste tristes en fait, juste tristes et fiers, parce que dans aucun monde, personne ne pouvait imaginer que le PSG, malgré le résultat final, on va mettre de côté, c'est toujours compliqué sur un match aller-retour de Ligue des Champions de dire tu mets le résultat de côté, mais de voir je pense que personne n'imaginait, aucun observateur, que ce soit les supporters parisiens du côté de Liverpool, les gens qui suivent ces deux clubs, n'auraient imaginé que le match puisse se passer de la manière dont il s'est passé hier.
Je n'ai jamais vu Liverpool se faire balader comme ça a été le cas hier soir au Parc des Princes. On a suivi sur RMC Sport l'APL pendant 6 ans, le Liverpool de Jurgen Klopp. Je n'ai jamais vu Liverpool se faire trimballer dans ces proportions-là.
Je crois que la dernière fois, c'était en 97 au match aller au Parc. Ouais. Parce qu'il y avait il y avait du lourd en face.
Pour ça, peut-être, là. Mais même l'équipe d'Arne Slot cette année, ils marchent sur l'Europe, ils sont premiers de PL, premiers de la phase de poule de Ligue des Champions, ils se sont baladés partout, ils perdent à Eindhoven, mais parce que c'était l'équipe C qui était envoyée, là t'as quasiment tous les titulaires qui sont là, et en fait on a assisté à une rencontre sur demi-terrain. C'était un truc de dingue, c'est-à-dire que le Marquinhos Pacho, ils étaient sur la ligne médiane pendant tout le match, avoir le courage d'être là comme ça, de jouer aussi haut, le contre-pressing à chaque fois, les obliger à allonger. Moi j'ai vu des joueurs de Liverpool complètement perdus, ça là j'avais jamais vu comme ça, Diogo Jota devant, des contrôles qui partaient directement en touche, etc. Les mecs étaient perdus, complètement perdus, parce qu'il y avait un rouleau compresseur en face. Malheureusement, voilà, ils sont tombés sur un Lisson extraordinaire.
Et justement, pourquoi
cette parade, je veux dire, c'était écœurant.
Pourquoi on perd ce match ? Pourquoi on perd ce match ?
On perd ce match d'une part, voilà, je le disais, parce que Alisson, ça c'est incontestable, c'est le fait majeur de cette rencontre. D'autre part, parce que peut-être que tu as aussi la jeunesse qui entre en compte. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis de Didier là-dessus, mais bon, au-delà de la jeunesse des joueurs, mais peut-être que le vécu collectif est tel que voilà, peut-être que parfois ça fait que quand tu te fais frustrer par un gardien comme ça a été le cas hier, à un moment donné tu perds en lucidité sur la fin. On peut quand même dire le match a été extraordinaire. Moi je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, la première mi-temps surtout. À partir de la deuxième période, Liverpool, ils arrivent un peu mieux à contrôler le PSG. Et surtout, tu sens qu'à un moment donné, ça s'essouffle. Moi, je voyais que sur les 20 dernières minutes, il y avait des situations de contre où voilà, ça accompagnait plus comme en début de match. Mais parce que c'est logique, à un moment donné, tu ne peux pas faire 90 minutes à cette intensité-là, pardon, ce n'est pas possible.
Non, c'est beau.
Donc voilà, je pense que il y a un peu de tout ça, et je pense que cette équipe va continuer à progresser. Et quand bien même, comme Didier le disait, elle se ferait éliminer au match retour, ce qu'on souhaite pas, mais voilà, tu es en train de construire quelque chose de fort et auquel surtout les supporters sont en train de s'identifier, et ça c'est cool.
Intensité, trois syllabes, lendemain de gueule de bois comme hier soir, t'es pardonné.
Moi j'ai pas dormi de la nuit, je t'explique. Je suis rentré à 1h du mat après l'after, je me suis refait le match évidemment à la télé parce que tu peux pas dormir dans ces moments-là. J'ai dormi à 3h, j'ai dit pourquoi. Bref.
Et ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'on est un peu à froid, on a un peu de recul, on a 24 heures plus tard. Est-ce que Didier, par rapport à hier soir, t'arrives un peu mieux à expliquer cette défaite? Comment tu l'expliques? C'est quoi? C'est le manque de vécu, comme le souligne Jimmy?
Je pense que on a vu comment Paris Saint-Germain a dominé cette équipe. Alors le milieu de terrain pour moi est pas une zone de vérité, c'est une grosse zone d'influence. Plus tu vas gagner le milieu de terrain défensivement et offensivement, plus tu auras de chances de créer des occasions et plus tu auras de chances de gagner. Mais malheureusement, on n'a pas inventé le football. Et le football se passe toujours dans les deux surfaces. Et je pense qu'hier, on l'a vu, quand tu as 4, 5, 6 occasions, tu as certains attaquants dans le monde entier ou avant, qui, avec une demi-chance, ils arrivent à scorer un goal. Excusez-moi, je parle souvent en anglais.
Goal, ça va encore pour nous. Goal, on l'a encore.
Voilà. Et donc, regarde le nombre d'occasions qu'on a eu hier. Donc, tout simplement, c'est juste l'efficacité. Et l'efficacité dans les deux surfaces. L'efficacité aussi au niveau de notre gardien. Malheureusement, quand tu regardes Alisson et quand tu regardes ce qui se passe avec une occasion, je pense qu'on peut éviter ce goal. Donc, c'est important de trouver une certaine efficacité dans les deux surfaces, parce que malheureusement c'est là que le jeu se joue. Mais quand tu regardes le milieu de terrain, tu regardes un peu les plans de Luis Enrique, comment il a presté, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça va nous donner encore plus de chance jusqu'à temps qu'on soit un peu plus efficient devant le but.
Mais c'est vrai, ce qui est assez impressionnant sur la défaite d'hier soir, quand tu réfléchis en fait par rapport à toutes les désillusions qu'on a connues dans le passé avec le PSG, hier t'en veux à personne ou presque.
Oui, ouais. Non, mais je vais
quasiment
y aller.
Tu vois, non, parce qu'il y a eu l'époque où t'en voulais à la direction sportive, tu disais c'est n'importe quoi, le projet, les stars, ça marchera jamais. T'as eu le Real Madrid, tu pouvais en vouloir à Donnarumma ou machin. Bon, il y a un peu l'arbitrage encore hier soir, mais au final tu te dis concernant le PSG, c'est un peu
dommage. Moi j'en veux, je suis désolé, je l'avais dit avant le match aller que c'était l'une des clés, et bon, enfin voilà, on le savait, Donnarumma, le contraste il est quand même terrible hier, voilà, Alisson Neufaré qui réalise, lui-même le dit, le match de sa vie, Thierry Henry disait, je crois que j'ai jamais vu un gardien faire autant d'arrêts en Ligue des Champions, et puis de l'autre côté, t'as Donnarumma, alors qu'a pas fait le même métier hier soir qu'Alisson, il a un arrêt à faire, un tir cadré, il le sort pas, la main passe assez ferme, l'autre côté, et peut-être que les rôles vont s'inverser à Anfield, que Donnarumma aura plein d'arrêts, qu'il aura les gants chauds, chaud et qui va nous sortir le match qu'il faut. Mais le contraste, encore une fois, il est terrible hier soir et c'est pas la première fois. Tu reparlais des événements, des éliminations précédentes. Moi, je suis désolé. Real, il est là. Bayern, il est là. Dortmund, il est là aussi l'année dernière. On sait et on savait, il lui reste un match, que son avenir repose aussi en partie sur cette double confrontation. Et là, il s'est encore trouvé.
Donnarumma, tu lui en veux aussi un peu ce matin quand même, Jimmy?
Forcément, que tu lui en veux quand ils ont une seule demi-occasion et que ça finit dans le but et qu'en face Alisson a tout sorti, oui, mais après
c'est dur parce que c'est pas une boulette non plus. Donnarumma, on l'a vu en faire pas mal. Bon,
il peut faire mieux, un gardien de haut niveau, c'est ce que disait.
C'est exactement la même que contre l'Atlético il y a 3 mois. Hein. C'est à peu de choses près. Moi, je la revois.
C'est vrai. T'as besoin d'être décisif dans les deux surfaces. T'as besoin d'avoir un tueur devant et t'as besoin d'avoir un gardien qui est décisif comme Alisson a pu l'être côté Liverpool. On n'a pas eu ça côté PSG. Alors après, voilà, il y a un match retour encore. Il aura l'occasion de se refaire. Donnarumma, il va falloir, de toute façon, si tu veux passer au retour. Alors évidemment, il va falloir être aussi bon dans le jeu, etc. Mais il va falloir un gros Donnarumma parce que je suis persuadé que Liverpool ne fera pas le même match et qu'il sera beaucoup plus sollicité à Anfield qu'il n'a été au Parc.
Un gros Donnarumma et peut-être, Didier commençait à le dire, un peu plus d'efficacité devant avec ce trio hier soir Dembélé, Barcola, Kvara. C'était un peu la petite surprise de la compo. On attendait peut-être plus Doué que Kvara. Au final, on a eu Kvara.
Et on a kiffé Kvara.
Et ouais, Didier, on voit la Kvara, pourquoi on l'a acheté cet hiver et aussi cher. C'est le genre de joueur qui, voilà, il a son but qui est refusé pour entrer léger hors jeu, mais c'est le genre de joueur qui peut faire la diff au retour en field.
Oui, bien sûr. Je trouve qu'on a une attaque extraordinaire. Ils vont tous vite. Ils sont tous capables de dribbler. Ils ont une capacité dans le contrat qui est extraordinaire. Donc, quand tu regardes un peu toutes les attaques dans les plus grands clubs du monde, on a vraiment une attaque qui est capable de marcher contre n'importe qui. Donc, Vazela, bien sûr, qui peut marcher au retour avec j'espère, une équipe qui va encore dominer le terrain. Je pense qu'ils vont créer des occasions. Ça, c'est sûr. Ils auront peut-être un peu plus d'espace, même encore, ce qui sera très important. Parce que quand tu regardes les buts contre Manchester City, c'est beaucoup d'espace dans le dos de la défense. Et c'est vrai que Liverpool ne pourra pas parquer le bus comme ils l'ont fait chez nous sur les demi-temps. Donc, ils vont laisser des espaces. C'est vrai qu'on a la qualité au milieu de terrain pour sortir le pressing avec le Joao et les Vitinha et devant avec la vitesse de Dembélé, de Kvara et de Barcola, même de Doué. Je pense que ça va être un super match, très ouvert, mais on aura encore plus d'occasions, mais dans un autre style où on n'aura pas à faire une défense renforcée. Et Dieu seul sait que voilà, quand on regarde Barcola, Dembélé, Kvara, ils aiment les espaces. Donc ça va être intéressant, un autre scénario, mais ça va être très intéressant pour moi. Je pense qu'on a toutes nos chances et qu'on peut passer si on garde surtout cet état d'esprit.
Kvara, avec le match qu'il fait sur ce mercredi sur le match aller, il a gagné sa place pour le retour là, d'emblée?
Oui, je pense. En plus, il a joué quasiment tout le match. C'est l'un de ceux qui est sorti le plus tard devant. Il a montré aussi qu'il apportait autre chose. On comprend pourquoi on a mis 70 millions. C'est un joueur, j'ai pas envie de dire unique, mais un joueur différent qui a. C'est pas les mêmes qualités qu'un Dembélé, qu'un Barcola qui ont besoin d'espace. Lui, il est capable de tout faire dans un tout petit espace. On le voit sur le but qu'il met, refusé pour un bout de talon. C'est le joueur associatif par excellence, encore plus que Barcola et Dembélé. Oui, je pense qu'à Anfield, il va être mis au frigo. J'espère aussi l'entre-deux matchs. Et ça, encore une fois, Luis Enrique sait gérer.
Samedi 17h.
Voilà, Rennes samedi 17h. On espère le voir, lui, au frigo, comme pas mal d'autres. Faut peut-être tirer un trait sur l'invincibilité en championnat samedi. Ça serait bien, mais honnêtement, et Luis Enrique lui le dit depuis le début, c'est pas un objectif et ça rentre pas sur le palmarès.
Quand même tu tournerais, t'es capable de
t'es capable,
de
t'es capable. Mais oui, moi ça m'embête pas si Kvara, Dembélé et pas mal d'autres vont sur le banc samedi.
Jimmy, le trio d'attaque.
Je pense que Kvara, Dembélé repartiront. J'ai un doute sur Barcola parce que je trouve que parmi les trois, on en parlait un petit peu hier soir dans l'after, c'est peut-être celui qui a un peu plus de mal quand il est pas dans son poste préférentiel, c'est-à-dire côté gauche. Quand il s'agit d'aller dans l'axe ou à droite, il est peut-être un peu moins à l'aise et surtout Doué fait une super entrée hier. Donc je me pose la question peut-être de désirer Doué titulaire d'emblée et avoir un Barcola.
Tu peux aussi mettre Doué au milieu et Kvara devant.
Ouais,
c'est très très offensif pour Anfield, mais
vu que
en même temps t'as plus rien à perdre.
Tu l'as pas fait au Parc, et que tu l'as. Je me suis posé la question hier au moment où il rentre Doué. Je me disais, est-ce qu'il va sortir un des trois milieux pour le mettre? Non, finalement il garde quand même cet équilibre là parce que comme Didier aussi le disait, tu vas avoir besoin de ressortir les ballons correctement, etc. Oui, Doué peut apporter cette touche technique au milieu de terrain, mais dans l'impact et tout, je pense j'imagine mal le voir toucher au trio Ruiz, Vitinha, Joao Neves.
Parenthèse, vous commencez à évoquer le milieu de terrain. Didier Domi, on a beaucoup parlé tout à l'heure, la bataille du milieu. J'aimerais ton avis, Didier, s'il te plaît, sur Fabián Ruiz. Joueur qu'on a beaucoup critiqué, moi le premier, mais j'ai l'impression, on en parlait un peu juste avant le podcast avec Julien,
hype.
Depuis quelques semaines, une sorte de hype et Fabián Ruiz serait devenu un indispensable, une hype que je ne partage pas du tout. Est-ce que tu penses quand même que le Paris Saint-Germain serait pas meilleur avec n'importe qui à la place de Fabián Ruiz?
Elle est bien orientée ta question.
Non mais Doué par exemple, voilà.
Fabián Ruiz, il bénéficie aussi de la bonne période du Paris Saint-Germain. C'est pas facile pour certains joueurs de s'adapter à un nouveau club, à une nouvelle ambiance. Il y a des joueurs qui prennent le premier jour, ils sont déjà dedans. Ils prennent 6 mois, ils prennent 1 an. Et quand tu regardes un peu l'expression du Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus dominateur. Il a tout le monde à côté de lui qui ont le toucher, qui ont la finesse, qui ont l'énergie aussi, c'est important. Donc forcément, ça facilite un peu les choses. Bien sûr, quand l'équipe elle est un peu plus renote, bien sûr que tu vas moins le voir. C'est moins quelqu'un comme Doué qui a la capacité de se sortir un peu d'un pressing ou d'être beaucoup plus fluide sur le match. Donc c'est normal, mais c'est tu mets Doué, tu mets Warren, ça va t'apporter des choses. Mais c'est vrai que Fabián Ruiz n'est pas quelqu'un de comme Vitinha où tu le mets tout de suite sur la feuille de match. Mais c'est quelqu'un qui est très important parce que c'est un vrai box-to-box, tu l'as vu. Il est capable de défendre, il est intelligent.
Sur le match d'hier, moi j'ai trouvé qu'il était beaucoup.
Il est capable d'aller dans la surface de réparation. Donc, je veux dire, Paris, c'est une entité, c'est un groupe de 22 joueurs. Je pense même au maillot, à tout le monde. Ils ont différentes qualités, mais ils s'imprègnent dans ce système et dans ces nouveaux principes de jeu. Donc, c'est ça le plus important.
Et puis, comprendre aussi, circonstances atténuantes, il ne faut pas oublier que Fabián Ruiz n'a pas Rodri à Paris. Il ne peut pas faire les mêmes matchs qu'en Espagne.
Je te trouve sévère sur le match d'hier. J'allais couper Didier sur le côté travail sans ballon, la projection aussi. Il se projette, il fait des décalages, il va dans la surface. Tu sais, c'est une équipe, vu que Dembélé, il redescend beaucoup pour toucher les ballons, tu n'as pas vraiment de neuf, etc. C'est quelqu'un qui a l'intelligence à chaque fois d'occuper les bons espaces, d'aller dans la surface de réparation.
Zaïre Emery le fait mieux que lui.
De manière différente, c'est pas le même profil. Moi j'aurais aimé qu'il dynamite un peu plus, par exemple. Zaïre Emery sur son entrée.
Oui,
il a eu que 15 minutes, mais tu vois, j'aurais aimé qu'il prouve que voilà, sur 15 minutes, il était mort de faim, qu'il allait redynamiser le milieu. Il a eu un peu de mal. Après, tout le monde autour de lui était aussi. Ils avaient tous 80 minutes dans les jambes.
Il est aussi un petit peu moins dans la lumière. Didier a raison. Quant à Vitinha et Joao Neves, qui sont des piles électriques, beaucoup d'intensité, plus technique. Fabián joue moins vers l'avant et c'est pas le même rythme. Et voilà, il pâtit peut-être aussi un petit peu de cette hyperactivité des deux à côté. Oui, il y a Warren, mais Warren revient de blessure. Et il y a plus d'options finalement aujourd'hui qu'il y en avait il y a un an quand Warren Zaïre Emery à 17 ans était le taulier du milieu de terrain.
Et c'est un soldat surtout de Luis Enrique, donc je pense que ça ne bougera pas Fabián Ruiz.
Malheureusement. Et puis il n'a pas Rodri. Ouvrons le dossier avec toi Didier. Le dossier Anfield. Je le rappelais tout à l'heure, 1997, demi-finale de Coupe des Coupes. Tu es au Paris Saint-Germain, double affrontement PSG-Liverpool, 3-0 au Parc à l'aller pour le Paris Saint-Germain. Match retour à Anfield, défaite du PSG 2-0, mais qui se qualifie donc pour cette finale de Coupe des Coupes. Raconte-nous Anfield, Didier. Est-ce que c'est vraiment une forteresse? Est-ce que l'ambiance, est-ce que ça te coupe les jambes? Ou est-ce que peut-être c'est un peu aussi surcoté? C'est ce qu'on entend parfois. C'est-à-dire que oui, super, les chants, You Never Walk Alone, magnifique, mais qu'on n'est pas non plus sur une des plus grosses ambiances d'Europe.
On est clairement sur une des plus grosses ambiances d'Europe. Mais il y a une époque, tu sais, avec Club, je me rappelle quand il est arrivé, sa première défaite, c'était contre Crystal Palace. Palace avait marqué à la 80e, il y a eu 2-1. Et c'est marrant, je m'en rappellerai toujours, et je me suis senti tout seul. Donc ça veut dire que Liverpool est une des meilleures ambiances au monde, donc l'équipe tourne bien. Et là, par contre, les Scousers, ça fait énormément de bruit. C'est impressionnant parce que j'ai eu la chance de. J'ai pas joué le match chaud parce que je m'étais occupé à l'aller, donc j'étais derrière le banc, je voulais y aller. Et l'ambiance était extraordinaire. Pourquoi? Parce que le scénario, donc c'est en fait, tu vois surtout Anfield quand son équipe allume le feu, tout simplement. Et là, par contre, ça devient la meilleure ambiance d'Angleterre. Parce que je les ai affrontés aussi avec Newcastle et Leeds. Et c'est vraiment impressionnant. Mais si Paris commence à jouer, commence à vraiment se créer des occasions, ça peut mettre le doute dans le dans Liverpool. Mais c'est vrai, quand tu entends le You'll Never Walk Alone, ou ici et au Celtic, Celtic Park, c'est extrêmement impressionnant. C'est vraiment des frissons. Ouais. Mais oui, je le répète, ça n'a pas toujours été comme ça.
Oui, parce que ce qu'on entend beaucoup depuis la défaite, c'est dire... on a l'impression que, en fait, que c'est injouable. C'est-à-dire que Paris a fait un super match, a ultra dominé. On a vu les stats partout sur les réseaux, les XG, les tirs, etc., la possession. Mais malgré tout, il n'y aurait aucune chance au match retour. Non, tu te dis, t'as pas de raison de ne pas réussir à refaire le même match au retour.
T'as des raisons de penser que Liverpool ne fera pas le même match au retour, surtout.
Ils ne peuvent pas faire ça
à domicile. Tu ne peux pas à domicile culturellement, les voir, attendre et tout, c'est pas possible. Liverpool, c'est une équipe qui va jouer, qui va te rentrer dedans, qui va être revancharde forcément, parce que même s'ils ont gagné le match, tu vois, enfin, je veux dire, ils ont, à ce niveau-là, c'est des énormes champions qui composent cette équipe-là. T'as un niveau de d'orgueil, d'ego qui fait que au retour devant tes fans, tu peux pas aborder le match de la même manière.
Non, je t'écoute, mais en même temps, il y a la musique en fond, j'ai l'impression d'être sur RTL2, c'est kiffant, j'adore. Ouais, pardon, Julien.
Non, moi, je compte beaucoup aussi sur Luis Enrique, encore une fois, sur la gestion de l'entre-deux matchs. Je parlais de Rennes, mais c'est presque le moins important. Comment mettre les mecs dans une bulle, comme il l'a fait l'année dernière avec le Barça. Il faut quand même pas oublier que le Barça, alors oui, il y a le carton rouge qui fait basculer le match, mais que Paris est mené 1-0, donc ils ont réussi à trouver des ressources. Certes, dans un contexte peut-être un petit peu moins hostile à Montjuïc, et puis faut pas oublier aussi, ça nous fait mal, mais que Luis Enrique était l'entraîneur de la remontada. Il sait faire ce genre de choses là entre deux matchs. Moi je pense que c'est jouable.
Si le PSG se qualifie, gagne à Liverpool par 2 buts d'écart ou après prolongue ou qu'avec 1 but d'écart, est-ce que Didier Domis serait le plus gros exploit de l'histoire du club?
Pas forcément. Tu sais pourquoi? Je ne pense pas qu'il y a énormément d'écart entre ces équipes. On n'a perdu que 1-0. La performance d'hier, c'est quand même unique pour un match de Coupe d'Europe. C'est quand pour les matchs à élimination, c'est aucune équipe après avoir eu 27 tirs, dont une dizaine de tirs cadrés, plus toute cette possession et gagner le match, c'était jamais arrivé avant. Donc Liverpool doit vraiment se sentir très chanceux. Donc ça ne sera pas pour moi le plus grand exploit du Paris Saint-Germain, parce qu'on a une telle maîtrise et puis on a passé un cap. Et je le répète, tu sais, cette équipe, comment elle est construite depuis 18 mois, elle est extrêmement et intelligemment construite. Et c'est vrai qu'il y a eu certains moments, on fait partie, pour passer des caps, et ça c'est important, ça te définit des moments dans un club, dans une génération, et tu l'as vu que ça les a libérés, Dembélé ça les a libérés aussi. Donc quand je regarde tout le monde en Europe, je crains plus personne, et je suis très content, parce qu'on est l'équipe que personne ne veut jouer, et on est l'équipe qui peut gagner n'importe qui, y compris Real Madrid, Barça. Donc c'est pour ça que je vous parle énormément de fondation depuis le début. Quoi qu'il arrive demain, on est sur un chemin où il y a une certaine harmonie entre le président, le directeur sportif, l'entraîneur. Les recrutements sont très bons, l'équipe est très jeune. Il ne faut pas oublier que c'est la troisième équipe la plus jeune de la Ligue des Champions. Donc tout ça fait qu'on a des fondations extrêmement solides. Et le fait qu'on ait beaucoup de talent avec les trois de devant et avec tout le monde, avec les 22, les 25 même, je serai toujours fier de cette équipe parce qu'elle courra toujours, elle a énormément de qualité et elle pourra gagner la Ligue des Champions.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir à entendre. Ouais, ça donne la banane, Didier, merci.
Et puis surtout, il y en a qui oublient, Didier a connu cette époque-là, mais dans les années 90, avant QSI, Paris a fait des gros exploits européens aussi.
Pour moi, le PSG Real Madrid 93, ça reste au-dessus de tout.
Il y a eu le Barça 95 aussi, il y a eu des exploits européens dans les années 90.
Mais c'est ce genre de truc qu'il faut faire.
Il faut faire un truc
si tu te qualifies, t'arrives dans ce top 3, top 5.
Pour me rassurer, j'ai essayé de voir quand est-ce que Liverpool, ils ont perdu, on en parlait avant de démarrer, ils ont pris 3-0 l'année dernière contre Atalanta en Europa League en quart de finale, c'était un match aller. 2023, il y a deux saisons, ils en ont pris 5 contre le Real, il y avait eu 5-2 pour le Real à Anfield. C'est les deux exemples récents, voilà, c'était des matchs aller à chaque fois, mais ça existe de se prendre une défaite par 3 buts d'écart à la maison, ça a déjà existé. Donc pourquoi pas le PSG?
Ce serait le plus gros exploit.
Pour moi, ça reste en dessous de certaines choses qui ont été faites dans les années 90. Parce que, comme le disait Didier, il n'y a pas un monde d'écart là, entre les deux équipes. À l'époque, le PSG était beaucoup. Était un pas un petit d'Europe, mais PSG Real en 93, il y a un monde d'écart entre les deux équipes et on a vu les images de Valdo. Voilà, c'est le plus grand exploit de l'histoire du PSG.
Je voudrais remercier Didier Domi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de la disponibilité et merci du discours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, oui. Mais moi je sors de là, ça m'a filé la banane.
Grâce à Didier.
Espérons que tu aies raison. Merci beaucoup Didier, à très vite dans l'After Paris, j'espère. Salut.
Merci. Je remercie. Beaucoup,
à bientôt.
Salut.
Merci Julien, merci Jimmy. Bon, on se retrouve de la semaine prochaine pour un nouveau.
Après la qualif,
c'est ça.
Ça, ce serait beau. Oh, ce serait énorme.
Merci à Brian Levavasseur et à toutes les équipes de prod et techniques qui bossent sur ce podcast. Merci à vous d'être là, fidèles, de plus en plus nombreux. Parlez-en autour de vous. L'After Paris dispo sur YouTube désormais, mais sur toutes les autres plateformes également. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous avez kiffé. Merci d'être là. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, les gars.
Ciao.
RMC After Paris.